Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Petit tour d'horizon de l'actualité de la semaine en région Languedoc-Roussillon, ça s'appelle le carnet de région. Chaque semaine, dans vos radios respectives avec en collaboration différentes radios associatives. Pour m'accompagner dans le cadre de ce magazine d'actualité, cette semaine, c'est Lauriane Avard. Lauriane, bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour à tous.
Et voici le sommaire de ce carnet de région.
Défendre l'hôpital de Florac menacé par des coupes budgétaires, objectif de la mobilisation organisée ce jeudi 25 juin, un reportage de Radio Bartas. La ligne à grande vitesse, Montpellier-Perpignan avance à grands pas, mais toujours des crispations autour du projet. Radio Aviva fait réagir le président de région, Damien Allary. Créer son entreprise, une affaire pas si facile. Le printemps de la création d'entreprise aide les porteurs de projets. Un reportage de RCF Hérault. Prévenir la radicalisation violente, objectif du département de l'Aude. RCF Carcassonne nous détaillera le dispositif. Faire le tour de France à vélo pour alerter sur l'urgence climatique, c'est le projet Alternatiba. Radio Pays d'Hérault a rencontré les militants lors d'un arrêt dans l'Hérault. Et enfin, 9e édition du festival 48e de rue du 2 au 6 juillet en Lozère. 48FM nous fait découvrir le festival en avant-première.
Bienvenue, c'est le carnet de région.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et on débute tout de suite ce magazine d'actualité avec une forte mobilisation à l'hôpital de Florac en Lozère, Lauriane.
Salariés du secteur, élus, simples citoyens, réunis jeudi 25 juin devant l'hôpital de Florac. Près d'une centaine de personnes pour s'opposer à la baisse des dépenses publiques, mais aussi pour apporter un soutien à l'hôpital menacé par des restrictions budgétaires. Représentante du personnel à l'hôpital et secrétaire du syndicat CGT, Patricia Servière nous explique en détail.
Si on se retrouve ici sur cette manifestation aujourd'hui, c'est pour contester tout ce que nous propose la direction, à savoir une dégradation de la prise en charge des patients et des résidents par suppression de personnel contractuel qui occupe cependant des postes fixes. Je veux préciser quand même que ce sont des contrats qui se terminent parce que les gens ont souhaité partir d'eux-mêmes, sauf que la direction refuse de les remplacer. Donc ils vont manquer et donc on nous propose une nouvelle réorganisation du travail à partir du 1er juillet. Sur les quatre qui s'en vont, il y a une AMP et trois ASH qui occupent des postes d'aide-soignants, d'où une très grande précarité sur l'hôpital de Florac.
Vous pouvez nous expliquer AMP, ASH ?
Alors, AMP, aide médico-psychologique, et ASH, agent des services hospitaliers. Ce sont des gens qui n'ont pas de formation, qui sont embauchés, alors souvent en contrat précaire, CAE, CUI, et donc voilà, qui coûtent moins cher à l'établissement.
Et au niveau des patients, est-ce qu'il y a une baisse qui justifierait cette politique ?
Absolument pas. On n'a pas l'impression que la direction prenne les patients au sérieux. On n'entend parler que de chiffres et certainement pas de la prise en charge du patient. On a des patients par exemple la maison de retraite qui n'ont pas de douche une fois par semaine et ça c'est inacceptable. Donc là ça va se réduire par du personnel à moins dans les services et donc une prise en charge diminuée, la qualité des soins diminuée et surtout la sécurité des patients pour moi est mise en danger.
Moins d'une douche par semaine pour certains résidents de la maison de retraite. La direction est au courant de ça, vous avez fait remonter j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous répondent à ce genre d'argument quand même assez fort ?
La direction m'a répondu personnellement que s'ils n'étaient pas douchés de 3 semaines, ce ne serait pas un souci, qu'il faudrait leur expliquer. Moi j'ai dit que ce n'était pas entendable pour du personnel soignant et la direction ne comprend pas pourquoi justement on ne peut pas entendre ce genre d'argument.
Combien de personnes sont accueillies par la maison de retraite ?
Alors sur la maison de retraite, donc l'EHPAD, il y a 55 lits, mais sur 2 sites différents, donc 40 lits côté maison de retraite et 15 lits côté Cantou. Et donc le Cantou, il y a un mois et demi, on nous a annoncé qu'on allait le fermer. Suite à une mobilisation des familles et du personnel et des représentants des usagers, donc la direction s'est engagée à ne pas fermer le Cantou. Mais sur ce service-là, il y a de suppression de personnel et moins de postes. Donc la prise en charge ne pourra pas être ce qu'elle était.
Quelle est la spécificité du Cantou par rapport à la maison de retraite ?
En fait, sur le Cantou, on accueille des personnes Alzheimer, donc qui relève de soins particuliers qui demandent beaucoup plus de personnel. Et en fait, ceci nous a été imposé il y a 3 ans par les ARS. C'était une sectorisation et la création d'un Cantou. Les ARS savaient très bien que c'était consommateur de personnel. Et en fait, on n'a eu aucun crédit qui allait avec. on n'est pas certain de l'avenir du Cantou. On n'a pas de réponse vraiment franche. Donc nous, on se pose beaucoup de questions sur l'offre de soins au sud de Lozère. On se dit qu'à terme, est-ce que les directions, est-ce qu'ils ne veulent pas que ça devienne qu'une maison de retraite ? Et du coup, donc une offre de soins limitée et beaucoup de personnel en moins. De toute façon, on est mobilisé et on compte le rester parce qu'on ne peut pas envisager l'hôpital avec moins de soignants. Ça, ce n'est pas possible. Parce que bon, je vais quand même dire, et je le répète, c'est encore la base qui est touchée, et que la base. Voilà, donc les gens qui sont au plus près des malades.
Mobilisation pour défendre l'hôpital de Florac en Lozère, un sujet proposé par Radio Bartas.
De son côté, Radio Aviva fait le point avec le président de la région Languedoc-Roussillon au sujet de la LGV Montpellier-Perpignan.
Des trains plus fréquents, plus fiables, plus rapides, autant de promesses faites par les promoteurs du projet de ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan. Les 150 km de rails pourraient être livrés en 2020, mais le projet connaît une opposition tenace. La future gare de la Mogère à Montpellier fait toujours débat, tout comme le tracé de la ligne au nord de Perpignan. Radio Aviva a profité du dernier comité de pilotage pour faire réagir le président de la région, Damien Allary.
Il y a eu quand même des consultations, des concertations, 10 réunions publiques. C'est sûr qu'un projet de telle envergure soulève toujours des craintes et des inquiétudes, vous le comprenez. Il y a des bâtis qui vont disparaître, qu'il faut racheter, enfin il y a des gens qui vont être déplacés, qu'il faut indemniser, sur lesquels il faut reconstruire. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Non, le projet sera à son terme quand la déclaration d'utilité publique aura été prise. C'est là où nous pourrons commencer à mettre les premiers coups de pelle mécanique et avoir les financements. Voilà.
Une réponse qui est attendue quand, à peu près ?
Pour le ministère, moi j'attendais la réponse d'ici la fin de l'année, voilà, d'ici la fin 2015. Si on peut l'avoir avant, ce serait très bien, mais j'en sais rien. Maintenant, la volonté, elle est ici. C'est d'aboutir entre tous et que tout le monde soit d'accord pour qu'on puisse réaliser cette ligne, cette DUP. Donc le projet est présenté. On n'est plus dans le fuseau, maintenant on est sur un passage vraiment rétréci. On sait, on connaît les propositions, et à partir de ces propositions, on a validé tout à l'heure un comité de pilotage pour adresser au ministre des Transports, M. Vidalis, le dossier. Dès qu'on a sa réponse, on peut lancer après les procédures d'enquête publique pour aller vers la déclaration d'utilité publique que je pense devrait être prise, si on ne retarde pas, en 2017. Ce qui voudrait dire que dans les années 2020, on pourrait inaugurer cette ligne.
Prochaine étape donc, les financements. 5,5 milliards d'euros doivent être réunis pour cette ligne. Ligne qui devrait être cofinancée entre l'Europe, l'État et la région.
Un sujet signé Gilles Geoffrey et Romain Bresson de Radio Aviva.
Opération créer son entreprise.
Une journée pour obtenir conseils et informations auprès d'assureurs, avocats et notaires. Le printemps de la création d'entreprise a posé ses valises à la maison pour tous Léo Lagrange à Montpellier. Stylo et calepin en main, Romain Bercher a recueilli quelques astuces.
Des tables, des prospectus à perte de vue, la maison pour tous Léo Lagrange, transformée en grand speed dating pour créer son entreprise. Premier arrêt au stand de Sabah.
On va les aider dans le montage du projet avec les étapes de faisabilité financière et économique, établir une étude de marché, monter un plan d'affaires, déterminer s'il y a un besoin financier et ensuite les orienter vers le financement si nécessaire.
Une fois que le projet est monté, il faut le promouvoir. Ça, c'est le rôle de Laurent. Il gère une entreprise de communication.
Les gens commencent à bien comprendre effectivement que la com, c'est aussi une histoire d'adaptation. Et c'est vrai qu'on ne fait pas la même communication pour l'ouverture d'une boulangerie comme on fait une communication pour une ouverture d'un magasin de fringues, par exemple. Et les gens en prennent vraiment conscience aujourd'hui et arrivent à adapter leur support de com comme ils se doivent.
Les jeunes créateurs d'entreprises engrangent tous les conseils possibles. C'est le cas de Vincent. À 20 ans, il souhaite lancer une association pour les jeunes couples avec enfants.
C'est plus encourageant qu'autre chose. La prochaine étape, c'est de commencer les démarches pour aller voir les assureurs, pour aller voir les comptables, pour aller voir les organismes, tout ce qui est l'assurance maladie pour les jeunes, pour... patron aussi.
Mais monter son entreprise de toutes pièces, ça peut vite devenir démotivant, noyé sous la paperasse. Rémi a vécu l'expérience.
Très difficile administrativement. Ça a mis beaucoup de temps au niveau des papiers avec l'URSSAF, le RSI, le statut juridique. Et on réclame rapidement de l'argent. Dès le début, on m'a demandé une avance sur cotisation alors que je n'avais même pas commencé à facturer.
Une expérience convaincante pour ces jeunes créateurs en herbe. Le printemps de la création d'entreprise devrait revenir l'an prochain.
Un reportage de Romain Bercher pour RCF Héros.
Un détour maintenant dans ce carnet de région, dans le département de l'Aude.
Le département. De l'Aude qui met tout en œuvre pour la prévention de la radicalisation violente à l'heure où de nombreux jeunes Audois sont tentés de partir au djihad. Reportage de Nathalie Dessos pour RCF Carcassonne.
Le service public du département, par ses travailleurs sociaux, est au contact de publics fragiles. Donc ils ont un rôle de vigie à jouer face à ce processus. Ils ont aussi un rôle d'accompagnement auprès des jeunes qui se seraient radicalisés à jouer. Donc l'objet de ce colloque, c'est de leur donner des outils professionnels pour à la fois détecter le processus de radicalisation, mais aussi de pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement adaptées face à ce public. C'est essentiellement des travailleurs du conseil départemental, assistantes sociales, psychologues, des membres des centres médico-sociaux, et un peu les services de l'État, notamment l'éducation nationale et la justice. On l'a vraiment ciblé vers les travailleurs sociaux du département parce qu'on pense que leur rôle et leur maillage territorial est essentiel dans la prévention de la radicalisation.
Un élan est déjà amorcé avec l'UDAF, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Alors nous allons nouer un partenariat avec l'UDAF pour l'accompagnement des familles cette fois. Les familles qui sont confrontées à ce processus et qui sont dans une situation de très grande détresse et d'anxiété, qui ne savent pas comment réagir. Donc nous allons très prochainement pouvoir mettre en place cette cellule pour pouvoir aider les familles. Le processus de radicalisation n'a rien à voir avec la pratique de l'islam qui a toute sa place dans la République laïque, qui est la République française. Les terroristes qui utilisent les fondements de cette religion l'utilisent à mauvais escient. Ils racontent des mauvaises choses. Les musulmans de France ont toute leur place dans notre République.
Un sujet réalisé par Nathalie Dessos pour RCF Carcassonne.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
À présent, nous parlons d'environnement.
Octobre 2013, des dizaines de milliers de personnes étaient réunies à Bayonne, dans le premier village des alternatives au changement du climat. Alternatiba, c'est le nom de ce projet qui pointe du doigt l'urgence climatique. Un an et demi plus tard, les militants décident de parcourir les routes de France à vélo. Escale la semaine dernière dans le département de l'Hérault.
Étape à Béziers pour les cyclistes du projet Alternatiba. Parti le 5 juin dernier de la ville de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, ces coureurs luttent pour le climat dans leur programme à 5000 km pour véhiculer un message clair. Alors quel est-il ? La réponse d'Aimé, l'un des cyclistes, dès son arrivée dans la ville de Béziers.
Un message par rapport à l'urgence climatique, où il faut vraiment faire des efforts pour réduire considérablement nos émissions donc de CO2, enfin notre impact sur l'environnement. Sinon, on part sur un emballement climatique. Donc c'est maintenant qu'il faut agir et c'est ce message qu'on veut faire passer en mettant donc en avant les alternatives, donc d'où le nom Alternatiba, qui veut dire alternative en basque. Donc on met en avant les alternatives au changement climatique, donc sur différents domaines.
Notamment les alternatives, elles existent déjà.
Des alternatives, oui, qui existent déjà, donc dans les domaines de transport. Là, par exemple, il y a forcément favoriser le vélo, les transports en commun, ou dans plein d'autres domaines, la consommation, mettre en avant les AMAP, l'agriculture paysanne, qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, et beaucoup, beaucoup d'autres alternatives dans le domaine énergétique, en mettant en avant Enercoop ou encore plein d'autres. Et donc, comme on l'a vu par exemple hier au village Alternatiba organisé à Narbonne.
Aimé, qui sera relié à Aix-en-Provence par un autre membre d'Alternatiba, tout comme lui, Sabrina participe à ce grand tour qui prendra fin en septembre prochain à Paris. À peine arrivée, encore essoufflée, elle s'exprime elle aussi pour la planète. Selon elle, il faut agir et vite, mais vivre autrement, est-ce possible ?
On n'arrête pas de le dire tous les jours, on pose la question surtout, mais qu'est-ce qu'on attend ? Parce que tout ça existe déjà, ça a besoin de visibilité et de diffusion, donc c'est ce qu'on fait avec Alternatiba, le tour et aussi les villages.
Alors dans le slogan d'Alternatiba, il y a nos enfants remercieront, donc on le fait aussi pour les générations futures.
Oui, surtout pour les générations futures, parce que là, si on n'agit pas dans cette fenêtre qu'on a devant nous des 10-15 ans, réellement on va à l'encontre de très gros problèmes d'ordre météorologique, mais aussi géopolitique, avec tous les problèmes de réfugiés climatiques, etc.
Agir pour le climat, c'est justement l'un des sujets qui sera au cœur de la COP21, la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris. Alors y a-t-il un espoir d'observer de réels changements ? La réponse de Sabrina.
Beaucoup d'espoir de pouvoir mobiliser les citoyens grâce à ça, parce que les médias et le débat climat sera au cœur des préoccupations. Mais pas. On espère que les pouvoirs politiques prendront en compte cette urgence climatique. Vraiment, on l'espère de tout cœur. On n'attend pas après eux, on attend qu'ils agissent en parallèle, mais on sait que les citoyens doivent se mettre eux-mêmes en action. Et on espère que cette action mettra après en action les politiques qui traînent un petit peu à se rendre compte des réalités du terrain.
Sujet signé Robert Martin et Jordi Oumira, Tom Zek de Radio Pays des Roues.
Pour conclure ce carnet de région, une petite note musicale en ce début de l'été, Lauriane.
Et oui, Cédric, l'été des festivals débute en Lozère la semaine prochaine avec la 9e édition du 48e de rue à Mende. Sur ce festival, retrouvons Ludovic Terol de 48 FM.
Quel super-héros se cache en toi ? Voilà le thème de la 9e édition du 48e de rue, un festival pluriartistique, familial et convivial porté par l'association Labo Art. 200 spectacles pour près de 50 compagnies qui vont investir les rues mondoises. Une programmation in-off avec un bracelet au tarif de 5€ qui permet d'assister à l'ensemble des spectacles du in pendant les 4 jours de festival. Écoutez Caroline Constantin, animatrice culturelle à Labo Art.
En effet, donc 18 compagnies sur le in cette année, un petit peu moins que l'année dernière, mais bon, c'est compensé par le off. Au niveau des compagnies in, vous aurez un petit peu de quoi vous faire plaisir dans différents styles. Il y a beaucoup de compagnies de cirque, d'art du cirque, beaucoup de compagnies de théâtre forain, manipulation, théâtre d'objets. Il y a même des manipulations et gourmandises pour ceux qui aiment le chocolat. Il y a de la danse avec de l'art du déplacement. Un magnifique spectacle, très original dans sa forme. Il y a aussi beaucoup d'humour dans tous les spectacles que l'on propose. Comme tous les ans, on fait attention à ce que ce moment soit un moment familial de détente et de pur plaisir, de découverte. Ça s'enchaîne tous les jours, samedi, dimanche, lundi, de 10h à 1h du matin.
Et oui, car comme l'ensemble des grands festivals, les spectacles en off dépassent maintenant ceux du IN, preuve de la notoriété grandissante du 48e de rue. François Robin, président de la Labo Art.
Ouais, c'est le signe que le festival, effectivement, se porte bien. 30 compagnies dans le off, 18 dans le IN, donc c'est vrai qu'on prend une dimension, là, on va dire, voilà, d'un vrai festival, un véritable festival qui commence à être connu, reconnu, et voilà, et attendu, en tout cas, par non seulement le public, mais aussi des compagnies, puisque, effectivement, elles viennent d'elles-mêmes sur le site, s'inscrire, téléphoner, ainsi de suite, pour pouvoir participer à ce 48e de rue.
Et dans un contexte difficile, cette programmation off est également un moyen d'aider ses compagnies. Nicolas Trottoin, secrétaire de l'association Labo Art.
Oui, un contexte qui est marqué par une récession économique, une difficulté, une crise financière importante et qui fait que les collectivités, avec les baisses des moyens qu'elles ont eues, de l'État, sont un peu obligés de faire des coupes-sons sur notamment la culture. Alors, c'est pas forcément le bon choix pour les collectivités, parce que la culture, c'est 65 milliards d'euros, c'est une des premières économies françaises, et que ça contribue aussi à l'essor national. Les compagnies vont être extrêmement touchées, beaucoup de compagnies, ils nous ont contactés, n'auront pas la totalité de leur contrat pour pouvoir prétendre aux assédiques et aux cachets d'intermittents. Enfin, en tout cas, à leur intermittence, voilà, plutôt. Et donc, nous ont proposé de venir au chapeau sur ce festival. Alors, c'est vrai que c'était pas un choix stratégique de notre part de faire un in et un off. On était même un peu contre, parce que c'est mettre un petit peu une distinction entre des compagnies. Elles sont toutes méritantes. On fait des choix parce que financièrement, on peut pas prendre tout le monde. On a créé 11 lieux nouveaux d'accueil pour ces compagnies off. Alors, c'est vrai qu'on financera pas leur venue directement, mais on prendra en charge leur restauration et leur implantation technique, plus l'apparition dans le programme du festival, plus après aussi tout un travail fait sur les professionnels qu'on a invités. Donc on a invité à peu près 350 professionnels à participer à cet événement où on va leur permettre d'avoir un repas en commun avec les compagnies, un bracelet offert pour leur permettre de voir tous les spectacles, et puis voilà, la possibilité de rencontrer ces compagnies dans d'excellentes conditions.
L'ensemble de la programmation à découvrir sur 48emderue.org.
Le carnet de région, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ce magazine d'actualité qui vous a été présenté par Lauriane. Merci Lauriane de nous avoir présenté. C'est quoi votre week-end d'ailleurs? Au programme musique, plage, piscine?
Exactement.
Ah d'accord, j'ai compris. Merci Lauriane, la semaine prochaine.
Merci
à votre même place. Ce sera Romain Bercher. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine d'actualité en région Languedoc-Roussillon. Merci également aux radios qui ont participé à l'élaboration de ce magazine. Prochain retour du carnet de région, c'est bien sûr la semaine prochaine. C'était le carnet de région.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.